Alors aujourd'hui, nous rendons hommage aux mamans, et être une maman, eh bien, être une mère ne se limite pas seulement à faire une promenade dans un parc. On affirme que lorsque... Ah, il y en a qui sourient, je pense qu'il y en a qui ont, il y en a beaucoup qui ont l'expérience. Ah, j'ai oublié une annonce très, très importante. Jeudi, c'est la fête de l'Ascension, pas la fête de la Pentecôte, mais la fête de l'Ascension. Il y a un rassemblement à Naissonvaux pour l'Église, donc c'est un rassemblement inter-Église, et à 10h30, il y a un culte, à midi, un dîner barbecue, donc là, c'est vraiment une aubaine, c'est le pain, saucisse, salade, tout ce qui comporte, en tout cas, tout ce qui rentre dans un pain, tout ce qui fait partie d'un barbecue, incluant la boisson, incluant le dessert pour 3 euros. Alors, vous pouvez... Moi, ce que j'ai besoin, c'est que j'ai besoin que vous veniez me voir pour vous inscrire, encore une fois, parce que c'est Jean-François Lecu qui doit préparer ce repas. J'ai besoin de savoir le nombre de personnes qui vont venir. Donc, c'est la semaine prochaine. Le culte à 10h30, le dîner à midi, et à 14h30, pour ceux qui veulent rester, eh bien, il y a vraiment une réunion de louanges, comme on a vécu à Genève il y a quelques mois. Alors, ça se passe jeudi, le 17 mai, et cette année sont vos. Si vous avez un problème de transport, vous venez me trouver. Quand vous vous inscrivez, on essaiera de s'organiser pour le transport. C'est Yves Gabel qui va amener le message pour le culte du matin. Voilà. Voilà. Alors, on affirme. OK. Le 9 juin, les hommes, vous allez voir Paolo. On a une journée de travaux. Pardon? Ah oui? Ah oui, c'est le nettoyage intérieur-extérieur. OK, donc les hommes et les femmes, le 9 juin, si vous voulez participer à une journée de travaux à l'église, donc on va un petit peu rafraîchir certaines choses, réparer. C'est à partir de 9h? Donc vous vous présentez ici le 9 juin à 9h. Vous allez donner vos noms à Paolo pour qu'ils savent un peu pour former les équipes. Alors c'est de vraiment se prendre tout le monde ensemble, donner un coup de main avant les vacances, quoi, pour qu'on puisse, en fait, rafraîchir l'église. Je rappelle qu'à la panne cet été, il manque encore, j'ai besoin encore de 6 noms. Il y a plusieurs personnes qui m'ont donné leur nom pour participer 2 semaines à l'évangélisation à la panne. Si vous êtes intéressés, vous venez me trouver. Si vous avez des questions, vous venez me trouver. Et on va passer 2 semaines ensemble. 1 semaine ou 2 semaines ensemble, dépendant. Je vais commencer mon message. Alors, on affirme que lorsqu'un enfant atteint l'âge de 18 ans, une mère a investi. Heureusement que les mères ne nous chargent pas, quoi. Ils ne demandent pas d'argent pour élever leurs enfants. On estime qu'une mère investit 18 000 heures de travail dans la vie d'un enfant quand il atteint l'âge de 18 ans. Imaginez-vous, salaire minimum, ce que ça peut donner, ce que ça pourrait nous coûter, nous les hommes, s'il fallait leur payer les heures qu'elles passent à élever leurs enfants. Cela me rappelle le père qui essayait d'expliquer à sa fille de 4 ans sur la notion, la notion de mariage. Alors, il sort l'album de mariage. Et pensant que des photos aideraient sa fille à comprendre en quoi consistait le mariage. Et lorsqu'il a eu fini, eh bien, la petite, il va lui demander si elle avait des questions. Elle va lui montrer une photo où sa mère était en train de danser le jour de son mariage. Et elle va demander à son père, « Papa, est-ce que c'est à partir de ce jour-là que maman est engagée pour travailler pour nous? » Ça nous donne une idée de ce qui se passait dans la maison, quoi. Hein? L'enfant. Un père parlait à son fils de l'influence que les mères exerçaient dans un foyer, et pendant que son père parlait, le fils se rappelait cette citation qu'il avait lue, « Si papa n'est pas content, qui s'en préoccupe? Mais si maman n'est pas contente, personne n'est content. » Et il se mit à rire et dit, « C'est vrai, chez nous, c'est comme ça. » Et je pense que c'est vrai aussi dans la nôtre. Et Ralph Waldo Emerson a dit, « Les hommes sont ce que les mères ont fait d'eux. » Et un vieux proverbe dit, « Une mère vaut facilement tous les professeurs que ses enfants auront. » pendant toutes ces années à l'école. Ça, je trouve ça beau, ça. Hein? Une mère vaut facilement tous les professeurs que ses enfants auront pendant toutes leurs années à l'école. Et nous avons plusieurs passages dans les Écritures qui soulignent l'œuvre de certaines mères, l'œuvre de certaines mères. Et j'aime bien le passage qui parle de la mère de Moïse, qui se préoccupait tellement de son fils qu'elle va enfreindre la loi de Pharaon pour enseigner la foi de son peuple à Moïse. Je pense aussi aux deux femmes qui se sont présentées, hein, les deux prostituées qui se sont présentées devant le roi Salomon. Et même si c'était des prostituées, le cœur d'une mère, eh bien, il y en a une des deux qui était prête à se séparer de son enfant pour le donner à l'autre, plutôt que de voir son enfant être coupé en deux et qu'elles en aient chacune moitié, parce que c'est ce que Salomon avait ordonné. Justement, il savait que le cœur d'une mère accepterait jamais de perdre son enfant. Il a dit, écoutez, donnez-moi une épée, on va le couper en deux, et on va savoir à qui appartient cet enfant-là. On n'est pas capable de savoir à qui appartient cet enfant-là, on va en donner chacune moitié. Hein? Mais la vraie mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a révélé qu'il était la vraie mère parce qu'elle s'est présentée devant Salomon et dit, non, je préfère que tu donnes cet enfant-là à l'autre. Et là, Salomon a vu c'était qui la vraie mère. Parce que l'autre, elle criait, oui, coupe-la en deux. Elle n'aura pas, puis moi, je ne l'aurai pas, quoi. Ouais. Ça, c'était la menteuse qui criait comme ça. Hein? Ouais. Non seulement elle était triste d'avoir perdu son enfant, mais elle était jalouse que l'autre avait son petit, qui était vivant. Et elle était prête à avoir seulement qu'une moitié. Et Salomon dit, OK, prenez l'enfant et donnez-le. C'est elle, sa vraie mère. Parce qu'il n'y a pas de mère qui accepterait de se séparer de son enfant. Il n'y a pas de mère qui accepterait qu'on coupe son enfant en deux. C'est pas vrai, les mamans? Et je pense aussi à la mère des fils de Zébédée qui aimait tellement ses deux fils qu'elle va demander à Jésus que ses deux fils soient assis à côté de lui dans le royaume de Dieu. Jésus permet qu'un de mes fils soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche dans le royaume de Dieu. Et je suis conscient que la fête des mères est un jour difficile pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous voulez devenir maman, mais que vous ne le pouvez pas, et ce pour différentes raisons. Peut-être que certaines n'ont pas eu nécessairement la meilleure mère du monde, tandis que d'autres n'ont plus leur mère. Certaines mamans ont perdu un enfant, d'autres souffrent parce que leur enfant a adopté la pensée du monde, tandis que certaines d'entre eux sont séparés ou divorcés et doivent travailler très dur pour soutenir la foi de leur enfant. Et ce matin, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai constaté à travers les années. Une mère peut avoir un impact spirituel d'une grande portée sur ses enfants avec ou sans l'aide d'un père. Une mère peut avoir une grande influence spirituelle dans la vie de ses enfants avec ou sans l'aide d'un père. Et ça, j'y crois, malgré peu importe la société dans laquelle on vit. Mon père était bûcheron, il partait 6 mois travailler dans le bois, il revenait au bout de 6 mois pour 3 semaines, et ma mère était capable de nous éduquer convenablement. Même si elle avait une foi chrétienne catholique, elle était capable de nous éduquer convenablement, et je sais qu'elle prenait soin de nous. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont camionneurs sur l'international, qui partent toute la semaine, qui rentrent le vendredi, qui partent le lundi, qui rentrent le vendredi soir. Et il y a des foyers chrétiens où la mère est capable de s'occuper, d'éduquer ses enfants dans les voies de Dieu malgré l'absence du père. Il y a des familles chrétiennes qui perdent leur père suite à un accident, suite à une maladie très jeune. Et pourtant, il y a des mères qui s'en sortent très bien, qui sont capables d'éduquer leurs enfants et de les conduire dans les voies de Dieu. J'aimerais vous présenter une femme qui s'appelle Eunice. Elle a grandi dans une famille pieuse, dont la mère, Loïs, a eu un grand impact spirituel dans sa vie. Elle aimait apprendre des histoires de la Bible lorsqu'elle était toute jeune, et elle se réjouissait de se rendre à l'église parce qu'elle pouvait apprendre des choses concernant Dieu. Et devenue adolescente, elle s'intéressait toujours aux choses de Dieu, mais elle était attirée par un jeune garçon qui ne connaissait rien sur Dieu. La Bible nous dit que c'était un jeune grec. Et ne tenant nullement compte des conseils de sa mère ni de l'enseignement spirituel qu'elle avait reçu, elle finit quand même par marier ce jeune garçon. Alors, on interprétait pas mal ce que je suis en train de dire, c'était un gentil garçon, mais dans son cœur, lui croyait que les choses spirituelles, eh bien, c'était bon pour les personnes qui manquaient de caractère. Et après quelques années de mariage, eh bien, Eunice et son mari eurent un garçon qui va porter le nom de Timothée. Et dans l'intervalle, eh bien, le père d'Eunice était décédé, et le couple va demander finalement à la mère de venir habiter avec eux. Et le petit Timothée était une source de joie pour tous les membres de la famille. Autant sa mère que sa grand-mère passaient des heures en sa compagnie. Elle lui enseignait des histoires de l'Ancien Testament et priait avec lui et pour lui, en lui inculquant la crainte de Dieu. Bref, elles firent tout pour ôter à Timothée ou pour créer à Timothée, pardon, un environnement spirituel dans lesquels il pourrait s'épanouir. Et ce matin, moi, je voudrais quand même remercier les femmes, prendre l'occasion de remercier les femmes, parce que les mamans, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est très, très exigeante pour les femmes. Les femmes ont voulu devenir l'égale de l'homme au niveau de la société, et je pense qu'elles en payent un lourd prix, parce que non seulement elles doivent travailler à l'extérieur, mais elles doivent aussi travailler à l'intérieur quand elles reviennent à la maison. Et il y a des mères, malgré ces exigences de la société, qui réussissent quand même à s'investir dans la vie de leurs enfants pour les inculquer, pour les enseigner dans les voies de Dieu. Et à travers l'histoire de Timothée, dans le livre des Actes, on voit Paul un jour qui va arriver dans la ville où il habitait et qui va parler à Eunice et à Loïs de Jésus, d'une personne de Jésus. Elles vont l'écouter attentivement et elles vont comprendre que ce qu'il est en train de dire, eh bien, elles vont réaliser que Jésus accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament. Et elles vont prendre une décision pour Jésus-Christ. Elles vont placer leur confiance en lui. Elles vont se repentir, elles vont se convertir. Et à leur tour, elles vont s'employer par la suite. Elles ont tellement trouvé un trésor en Jésus-Christ, elles n'ont pas découvert une religion, mais une relation. Elles vivent une relation avec quelqu'un qui est ramené de la mort à la vie, Jésus-Christ. Et là, elles ont ce trésor, elles veulent l'enseigner à leur enfant. Et la grand-mère veut l'enseigner à son petit-enfant. Et elles vont s'investir vraiment pour enseigner à Timothée tout ce qui concerne Jésus-Christ. Et nous savons, en lisant le livre des Actes, que Paul lui-même s'intéressait personnellement à Timothée et qu'avec l'aide de sa mère et de sa grand-mère, ils vont conduire Timothée à la foi. Et par la suite, eh bien, on sait, hein, les Écritures nous en parlent, Timothée va accompagner Paul pour répandre l'Évangile dans la région. Et plusieurs années plus tard, lorsque Paul sera emprisonné, il va écrire deux lettres à Timothée. Il va lui rappeler certaines choses, entre autres, comment diriger une église. Il va aussi lui parler des souvenirs qu'ils ont eus ensemble. Et il va lui rappeler aussi ce qu'il doit à sa mère et à sa grand-mère au niveau spirituel. Et rapidement, il est midi moins 25, j'aimerais simplement vous parler de trois choses. Trois choses, vous montrer de quelle façon finalement une mère et une grand-mère peuvent avoir un impact spirituel significatif sur leurs enfants avec l'aide ou sans l'aide d'un père. La première, c'est inculquer un saint respect pour les Écritures. Ça n'incombe à la mère, ça n'incombe aux parents, ça n'incombe pas à l'Église. Ça, c'est très important. C'est très important. La grande tristesse souvent, c'est que les parents ne sont pas nécessairement fidèles dans l'enseignement des enfants, que ce soit à l'Église à travers l'école du dimanche. Et quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence et que les enfants quittent l'Église, les parents viennent nous voir pour qu'on puisse réchapper les enfants. Oui, mais ils venaient une fois sur sept, une fois sur deux mois, une fois par trois mois à l'Église. Ce n'est pas la responsabilité de l'Église. On a une grande responsabilité. Écoutez, on est appelé non seulement à vivre cette vie ensemble, on est appelé à passer l'éternité ensemble. Et ça commence très, très jeune à inculquer à nos enfants un saint respect des Écritures. Vous savez, l'enfant qui respecte les Écritures va respecter ses parents. L'enfant qui respecte les Écritures va respecter la parole de Dieu. L'enfant qui respecte les Écritures, il va mettre en application ce que la parole de Dieu lui dit. Il va marcher dans les voies du Seigneur. Inculquer un saint respect pour les Écritures. Paul rappelle à Timothée que tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Et au verset 14, eh bien, il exhorte Timothée à tenir bon lorsque des temps difficiles viendront. Et on voit qu'à travers les Écritures, même dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15, Paul dit que dès son enfance, eh bien, la mère et la grand-mère de Timothée l'ont enseigné dans la parole de Dieu. Et le mot enfance, dans certains passages, fait référence à un bébé nouveau-né ou un tout petit enfant. Et quand Paul utilise le mot enfance ici, eh bien, il laisse entendre qu'avant même que Timothée puisse parler, avant même que Timothée puisse commencer à marcher, eh bien, la grand-mère et la mère de Timothée ont déjà commencé à s'investir spirituellement dans la vie de ce bébé-là. Ils ont commencé à lui apporter des chants, des cantiques chrétiens. Ensuite de ça, ils ont commencé à lui apprendre à mettre en pratique les Écritures. Elles ont mis en pratique les ordonnances de Deutéronome 6, versets 4 à 7. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et la mère et la grand-mère de Timothée ont eu un impact dans la vie de Timothée pour une bonne raison, c'est qu'elles mettaient en application ce qu'elles allaient chercher dans la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Elles mettaient en application ce qu'elles allaient chercher dans la parole de Dieu. Et Timothée avait un modèle dans la maison, jour après jour au quotidien. Il avait un modèle à suivre dans la maison. Deuxièmement, la deuxième façon d'avoir un impact significatif dans la vie de vos enfants, c'est en leur inculquant une foi authentique, un saint respect des Écritures et une foi authentique. Moi, j'ai réalisé une chose, en tout cas. Les enfants, contrairement aux adultes, c'est pas des hypocrites. Et si on joue, on fait semblant d'être chrétien. Parce qu'il y en a beaucoup qui font semblant d'être chrétien. Il y a même des chrétiennes qui marient des gars qui font semblant d'être chrétiens et qui réalisent que cette personne-là ne vit rien avec le Seigneur. Et là, c'est très, très pénible. Et il y a des chrétiens qui vivent, qui se marient avec des femmes qui font semblant d'être chrétiennes et qui se retrouvent du jour au lendemain, quand elles découvrent le poteau rose, ben c'est pas facile à vivre. Mais les enfants ne sont pas hypocrites. Et on peut leur dire qu'on aime le Seigneur. On peut leur dire que le Seigneur, c'est tout pour nous. Les enfants, ils savent très bien si on le vit ou pas, ce qu'on dit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise, écoute, ce que tu es en train de me dire là, tu ne le vis pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et ça fait mal. Parce que quand ça vient d'un adulte, tu peux dire, écoute, t'es qui toi de me parler? Quand ça vient d'un enfant, qui te côtoie toutes les semaines, qui vient dire ce que tu viens de me dire là, tu ne le vis pas. Ça, c'est, ça fait encore plus mal qu'une gifle, ça. Ça fait bien plus mal qu'une gifle. Ouais. Et quand il arrive à 16 ans, 17 ans, puis qu'il ne veut plus venir à l'église, et tu lui poses la question, pourquoi tu ne veux plus venir à l'église? Et qu'il dit, papa, maman, j'en ai assez de votre religion. Moi, maintenant, je vais mener ma vie comme bon me semble. Ça, ça fait mal aussi. Ça, c'est pas aussi pire qu'une gifle, c'est aussi pire que recevoir un coup de poing entre les deux yeux. Frères et sœurs, ici, pourquoi Timothée était capable de marcher, de devenir un serviteur du Seigneur? Parce qu'il avait devant lui, jour après jour, deux femmes, sa grand-mère et sa mère, qui vivaient vraiment une relation intime et personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Et vous savez comment elle le faisait? Elle le démontrait dans la pratique. C'était pas juste de se contenter de venir à l'église le dimanche, mais à chaque jour, sans qu'il y ait des frères et des sœurs qui puissent les regarder agir, elle savait que Dieu avait son regard porté sur elle et elle voulait investir cette foi dans la vie. Elle voulait laisser un modèle de foi authentique dans la vie de Timothée. Le mot sincère ici, je vais 2 Timothée 1:5, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, dit Paul, cette foi que ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice ont eue avec toi, là, il parle de Timothée. Je suis certain que tu la possèdes aussi. Et le mot sincère ici, eh bien, signifie une foi qui est exempte d'hypocrisie, c'est-à-dire une foi qui est authentique, sans aucune prétention et sans aucune façade. Et ça fait du bien de travailler avec un homme ou une femme, qui a cette foi, qui manifeste cette foi. Tu sais que tu peux compter sur lui. Tu sais que c'est quelqu'un qui va prier pour toi. Tu sais que c'est pas quelqu'un qui envie ton ministère. Tu sais que c'est quelqu'un qui est derrière toi et qui préfère même que tu ailles en avant, lui va être en arrière et il va prier, il va intercéder pour toi pour que Dieu mette sa main protectrice et sa main bénissante sur ta personne et sur ton ministère. Et Timothée était ce genre de personne-là. À tel point que quand Paul va sentir que Dieu va le reprendre, eh bien, Timothée va devenir celui qui va remplacer Paul dans l'Église chrétienne. Ça va être la colonne qui va prendre la place de l'apôtre Paul, qui a mis sur pied tout ce qui se passe, en principe, dans la vie de l'Église. Remarquez la façon dont la foi s'est transmise dans cette famille. Loïs, la grand-mère, à Eunice, la mère. Eunice, la mère, à son fils Timothée. De mère en fils, et ainsi de suite. On m'a raconté qu'un pasteur avait eu une longue conversation avec quelqu'un qui voulait devenir membre de son église. Quand il était jeune, celui-ci était déjà prêt à se joindre à l'église. Curieux, le pasteur lui demanda ce qu'il avait bien pu dire pour le convaincre de se joindre à l'église. Et l'homme répondit, « C'est pas ce que vous avez dit, mais plutôt la façon dont ma mère vivait sa foi qui m'a convaincu. » Bien que cela ne soit pas écrit dans le texte, une mère qui réussit à transmettre à sa foi à ses enfants est sans l'ombre d'un doute une femme qui prie. Et ce matin, c'était béni parce qu'à travers le témoignage, à travers les prières, les sujets de prière, on a parlé, Seigneur, donne-nous cet esprit de prière pour nos enfants. Moi, je le savais ici, mais là, c'est descendu ici, que Dieu ne fait rien sans la prière. Dieu ne fait rien sans la prière. Quand un chrétien prie, il donne autorité à Dieu d'agir non seulement dans sa vie, mais dans la vie des autres. On ne peut pas s'attendre à ce que nos enfants soient des gens qui sont consacrés à Dieu si on ne les a pas d'abord remis entre les mains du Seigneur dans la prière. Dans la prière, devant le trône de la grâce de Dieu, j'ordonne à Dieu de s'occuper de mes enfants. Quand je dis, Seigneur, je veux que mon enfant, je te prie pour mon fils, tu vois qu'il vit dans le péché, qu'il veut rien savoir de toi, Seigneur, et tu vois que ça va en empirant sa vie. Seigneur, je te le remets entre tes mains, je te remets son âme entre tes mains, Seigneur, je te demande de le sauver. Vous allez voir que Dieu va agir. Parce que la Bible dit que quand Jésus dit, si vous demandez en mon nom, eh bien, vous allez recevoir ce que vous demandez. Et moi, j'aimerais m'adresser à vos mères aujourd'hui, qui prient, qui pleurent parce que leurs enfants ont quitté l'Église, qui pleurent parce que leurs enfants ont abandonné Dieu. Ne vous découragez pas. Continuez à prier, continuez à intercéder, et vous allez voir que Dieu va toucher le cœur de vos enfants. Vos enfants, Dieu en a déjà rencontré des pires, et il n'y a pas un cœur que Dieu ne peut pas briser. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas prendre votre enfant, l'amener dans une religion pour le faire changer de religion. Dieu, ce qu'il veut faire, c'est faire tomber toutes les forteresses qui sont devant lui, pour l'amener au pied de la croix, lui faire réaliser ce que Jésus a accompli pour lui, et de dire, écoute, sans Jésus, peu importe la religion que tu pratiques, t'es perdu, mon ami, t'es perdu. Parce qu'il n'y a aucun sacrifice que je peux accepter, aucune œuvre que je peux accepter en dehors de celle que Jésus a accomplie pour toi. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de dire oui ou de dire non. Et la Bible est claire, hein, il n'y a aucun moyen d'être pardonné nos péchés sans le sacrifice de Jésus-Christ. Et Dieu est extraordinaire, Dieu nous aime, il ne nous force pas à accepter, il ne nous force pas à croire, il nous dit, écoute, je te présente le message, maintenant, toi par contre, tu as la grande responsabilité de dire oui ou de dire non à ce message. Parce qu'un jour, peu importe que tu crois en moi, peu importe que tu crois que j'existe ou pas, un jour, tu vas devoir comparaître avant moi, tu vas devoir rendre des comptes. Et si tu veux voir ta liste de péchés effacée, terminée, parce que moi, je te garantis que je les oublie, eh bien, place ta foi, place ta confiance dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Troisième façon qu'une mère... Troisième façon d'avoir un impact ou une influence dans la vie de ses enfants, c'est d'inculquer à nos enfants un désir de servir le Seigneur. À chaque génération, Dieu appelle des hommes et des femmes à le servir, à remplacer ceux qu'il va rappeler à lui. Et Timothée, eh bien, avait les qualifications nécessaires, il remplissait ces qualifications-là. Si vous allez dans le livre des Actes, Timothée était quelqu'un qui était un chrétien fermé. Il avait une bonne réputation auprès de ceux qui le côtoyaient. Deux, et troisièmement, il était disponible, il s'était rendu disponible pour servir dans le royaume de Dieu. Chère maman, une grande partie de votre travail consiste à inculquer un saint respect pour la Bible à vos enfants, de leur inculquer une foi authentique et aussi ce désir de servir le Seigneur. C'est vrai qu'on est attaché à nos enfants, c'est vrai qu'on ne veut pas les envoyer au loin, c'est vrai qu'on s'ennuie, on ne verra pas nos petits-enfants, on ne les connaîtra peut-être pas, mais moi je pense toujours à Anne qui a accouché de Samuel. Elle n'était pas sans savoir d'enfant, Dieu lui fait la grâce de lui en donner un. Et quand elle l'a, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le porter au prêtre et elle dit, voici cet enfant-là que Dieu m'a donné dans sa grâce. Eh bien, je vais le consacrer à Dieu. Et il est devenu ce Samuel, le grand prophète en Israël, Samuel. Et Dieu regarde au cœur, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut avoir d'autres enfants après. Ah, Dieu bénit, quoi. Dieu bénit celui qui marche avec lui. Et pourquoi vos enfants ont besoin d'être... Vous avez besoin d'inculquer ce désir de servir le Seigneur à vos enfants, parce qu'ils pourront ici venir en aide à ceux qui souffrent dans cette société. Ils pourront servir dans un ministère quelconque. On pourra identifier leurs dons spirituels et Dieu pourra les utiliser sur une base régulière, parce que frères et sœurs, nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes appelés à devenir des disciples afin de pouvoir faire des disciples et de pouvoir évangéliser. Nous sommes appelés à nous sanctifier afin que nous puissions être envoyé vers ce monde perdu et mourant. Et je termine. Vous pensez que ce que je viens de raconter, c'est des histoires dans la Bible? Moi, je vais vous rendre le témoignage d'une femme qui me renverse. Et c'est Susanna Wesley. Je vais prendre 5 minutes pour parler de Susanna Wesley. Susanna Wesley, c'était la fille d'un prédicateur dévoué à l'œuvre de Dieu. Elle épousa le célèbre pasteur Samuel Wesley. Des 25 enfants de cette union, je ne me suis pas trompé dans les chiffres, ils ont eu 25 enfants. Susanna était la 24e. Il faut dire qu'on se mariait à 13-14 ans à ce moment-là. Au cours de sa vie, elle suivit l'exemple de sa mère, consacrant 1 heure matin et soir à prier et à méditer les Écritures. D'après ce qu'elle écrivit un jour, on se rend compte de la place que tenait la prière dans sa vie. Elle écrit « Loué soit Dieu pour toute journée où nous nous conduisons bien. Mais je ne suis pas encore satisfaite parce que je ne profite pas beaucoup de Dieu. Je sais que je suis encore trop loin de lui. Je désire tenir mon âme plus étroitement unie à lui par la foi et l'amour. Quant à Susanna Wesley, elle était la maman de 19 enfants. Elle venait d'une famille de 25. Elle en a eu 19. Dont deux qui sont fort connus, qui s'appelaient John et Charles Wesley. Cette mère de 19 enfants passait une heure chaque jour à prier pour ses enfants. De plus, elle prenait une heure à part avec chaque enfant, et ce, à chaque semaine. Ça veut dire 19 heures. Pour leur parler des choses spirituelles. Pas étonnant que ses enfants furent utilisés par Dieu pour bénir l'Angleterre et une grande partie des États-Unis. Et si l'Angleterre n'a pas connu la révolution que la France a connue, c'est grâce à John et Charles Wesley. Parce qu'ils ont une mère chrétienne qui a su les inculquer, justement, ce saint respect des Écritures, qui a su leur transmettre la foi authentique en Jésus-Christ. Et qui leur a rappelé qu'ils étaient sauvés pour servir. Deux hommes qui ont bouleversé l'Angleterre. Deux hommes. Alors que Voltaire était parti et retourné en France avec sa philosophie et tout ce que ça a apporté, la révolution en France. Susanna Wesley croyait que celui qui ménage sa verge haït son fils. Et elle ne voulait pas entendre ses enfants pleurer. Non, parce que 19 en même temps, ça ne doit pas être facile, quoi. Mais ça, c'était son principe. Grâce à cela, bien que sa maison fût pleine d'enfants, il n'y avait jamais ni scène désagréable, ni tapage au foyer du pasteur. Jamais aucun de ses enfants n'obtint ce qu'il désirait par les larmes dans la maison de Susanna Wesley. Pour Susanna, le jour de son 5e anniversaire, chaque enfant devait apprendre l'alphabet, et tous, à l'exception de deux, accomplir la tâche au moment fixé. Le lendemain de ses 5 ans, ayant maîtrisé l'alphabet, l'enfant commençait à apprendre et à lire, et ce, le premier verset dans la parole de Dieu, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Ça, c'était son principe à ses 19 enfants. Dans la liste, le nom de John figure le mercredi et celui de Charles le samedi, c'est-à-dire le rendez-vous qu'elle prenait avec eux une heure par semaine avec chacun. John Wesley, c'était le mercredi et Charles le samedi. Pour chacun des enfants, son jour devenait une journée précieuse et mémorable. Il est émouvant de lire ce que John Wesley, qui était le 15e des 19 enfants de Samuel et de Susanna Wesley, disait à sa mère 20 ans après avoir quitté la maison paternelle. Écoutez. « En beaucoup de choses, vous, ma mère, avez intercédé en ma faveur et vous l'avez emporté. Qui sait, même maintenant, si votre intercession pour que je renonce entièrement au monde a été couronnée de succès. Elle sera sans doute efficace pour corriger mon cœur, comme elle le fut autrefois, pour former mon caractère. » Pas extraordinaire, ça? Ça fait 20 ans qu'il est parti de chez lui. Et vous voyez, les prières à répétition de sa mère, ça a touché son cœur. Dieu a fait une œuvre incroyable à travers John Wesley. Et je crois sincèrement, mesdames, vous qui êtes maman, ne désespérez pas. Continuez à prier pour vos enfants. Continuez à prier pour la conversion de vos enfants. Inculquez-leur cette foi. Inculquez-leur ce saint respect pour la parole de Dieu et ce désir de servir le Seigneur. Et je suis persuadé encore aujourd'hui dans notre génération que Dieu veut qu'il y ait des John et des Samuel Wesley qui se lèvent. Et croyez au plus profond de votre cœur que Dieu veut utiliser vos enfants pour révolutionner aussi cette société qui est perdue, qui n'a pas de solution pour se sortir de la misère dans laquelle elle se trouve parce qu'elle vit sans Dieu et elle a besoin d'entendre la parole de Dieu pour savoir que Dieu les aime, que Dieu n'est pas là pour les condamner, que Dieu n'est pas là pour les juger, mais que Dieu est un Dieu d'amour et que Dieu appelle tous et chacun à se repentir. Et ce, pour la gloire de son nom. Et vous dites, Amen.